Je m'appelle Marc Blanchet, j'ai 44 ans, je vis à Tours. J'ai grandi à Bourges, dans le quartier HLM des Gibejons. Ma chambre donnait à l'arrière et non sur l'avenue du Général de Gaulle. C'était d'anciens champs gagnés progressivement par les constructions de ce quartier, accueillant de nombreux immigrés. Un bâtiment à côté s'appelait l'immeuble des rapatriés, ce que j'ai toujours associé au nom d'immigrés. Pour moi, un immigré, c'est quelqu'un qu'on rapatrie. Du coup, le mot communauté n'était ni lié à Blanchot ou à Nancy. C'est ce qu'on appelait, par exemple, la communauté maghrébine. Ou, puisqu'on est dans les années 70, il y avait une autre expression obscure dans sa pratique, mais intéressante, qui était vivre en communauté. La fenêtre de ma chambre donnait donc à l'arrière sur ce qui avait été la campagne. Il y avait là la ferme. À moitié en ruine, elle servait à accueillir des vélos ou mobilettes volées qui pourrissaient là. Il y avait un peu de végétation au milieu de la basse-cour, du moins de ce qu'il restait de celle-ci. Plus loin, le paysage offrait des lumières nouvelles, celles de construction en cours, des routes désertes, notamment une qui dessinait sa perspective en ligne droite vers le fond de ce tableau et qui bordait une série de garages. On voyait à gauche un lycée agricole bordé de très hauts immeubles. Ceux de la rue Alfred de Musset ont été abattus depuis. Le plus important dans tout cela, c'était au milieu de la fenêtre, plus exactement à ses deux tiers en partant du bas, une barre en fer pour éviter que cette fenêtre ne soit constituée que d'une seule vitre. Or, cette barre, c'est le cas de le dire, me barrait l'horizon. Il me fallait voir soit au-dessus, soit en dessous. En dessous, c'était plonger le regard vers la cour en gravier blanc, poussiéreuse, sale, avec des enfants ou adolescents que je redoutais. Au-dessus, c'était l'horizon, mais il fallait alors se tenir debout. On ne pouvait voir assis ou allongé sur le lit devant soi sans avoir le regard coupé par cette horizontalité d'une épaisseur d'environ 8 cm. Leopardi a écrit un poème qui s'intitule « L'infini ». J'en ai trouvé une traduction, celle de Philippe Jacoté. Je vais vous la lire. Toujours j'aimais cette hauteur déserte et cette haie qui, du plus lointain horizon, cache au regard une telle étendue. Mais demeurant et contemplant, j'invente des espaces interminables au-delà, de surhumains silences et une si profonde tranquillité que pour un peu se troublerait le cœur. Et percevant le vent qui passe dans ses feuilles, ce silence infini, je le vais comparant à cette voix et me souviens de l'éternel, des saisons qui sont mortes et de celle qui vit encore, de sa rumeur. Ainsi, dans tant d'immensité, ma pensée sombre et m'abîmer, mais doux en cette mer. Voilà, pas d'infini sans conscience de l'obstacle. Il faut dépasser un premier plan, passer par-dessus un mur, dépasser l'immédiat pour connaître l'horizon qui devient l'infini, car celui-ci ne saurait être un obstacle. Il est la promesse d'une continuité. Il draine le regard au-delà de ce que le regard peut percevoir au mieux. J'ai détesté cette enfance en HLM. Je rêvais d'un déménagement et pourquoi pas les beaux quartiers du centre-ville. Rien que le nom du collège Littré me faisait rêver. Nous avions néanmoins à Bourges Nord le collège Jules Verne, puis le lycée Alain Fournier. Aucun de ces espaces ne m'a satisfait et je ne savais pas comment être au beau milieu des personnes de mon âge. Aujourd'hui, je ne sais pas mieux. Il y a des communautés, certes, dont nous parlons ici, que nous tentons de former, même si ce n'est peut-être qu'un moment de bonne entente. Je parlerai plutôt de deux choses pour répondre à un thème qui soit l'auteur et la communauté. Bien sûr, il faudrait définir ce terme et en le définissant, en dire quelque chose qui soit juste. J'ignore comment définir ou approcher correctement ce terme. J'ai proposé ce mot à des amis ces derniers temps, lors de repas. On a frôlé l'épuisement verbal. En tout cas, avec tous ces gens, ces amis, je ne pense pas que nous formions une communauté. Soit la communauté représente une cause commune et peut sous-entendre une croyance, soit il faut avoir une idée du politique, une culture du politique surtout, et celle-ci m'échappe. La politique appelle toujours une interrogation sur le pouvoir, ou la prise du pouvoir, une mise en commun d'intérêts en tout cas, et je ne suis pas doué pour cela. Quoique, cela non pas m'interroge, mais me tente. Peut-être dois-je accomplir ma propre révolution pour en envisager une à l'ordre national. Cela est un peu confus, mais je ne revendique surtout pas la clarté. En fait, j'ai voulu aller au-delà de la barre qui s'imposait au milieu de la fenêtre. Ça, j'en suis sûr. Je suis allé dans le vaste monde. Ce qui rejoint la deuxième chose que je voulais vous dire, les communautés, je les ai traversées. Et c'est ce que je préfère. Être traverseur de communautés est une belle activité. Je suis là, demain ailleurs, avec les riches, les pauvres, souvent les modestes, je parle des revenus, bien sûr. Avec aussi les étrangers, les immigrés de dehors, pourrait-on dire avec humour, s'ils n'étaient ceux que nous accueillerons demain, chassés par des guerres, la pauvreté, la faim, la politique. Voici donc ce qu'était la banlieue, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, mais à Bourges, c'était juste Bourges Nord, ce qui suffisait à faire frémir le copain que j'avais du collège Littré. Bourges Nord était le lieu des viols et des égorgements, le lieu des Arabes et des Noirs, des en fait je ne sais pas quoi. Bourges Nord m'a, je l'avoue, donné une conscience politique. Au début, dans sa jeunesse, cela est maladroit, intuitif. Ensuite, la chose prend corps. On est un peu plus sûr de soi dans ses formulations, parfois dévoré par le jugement, les jugements, la colère. Mais ne croyez pas trop en de la compassion. Ce quartier, j'ai voulu le fuir, je l'ai fui. Ce fut Tours, comme étudiant, pseudo-étudiant, trois premières années de lettres. Puis ensuite Paris, Bourges à nouveau, gardien de la maison de la culture, Bordeaux, enfin la découverte, un rien contrariante du monde du travail, contrariété qui continue toujours d'ailleurs. Puis Tours à nouveau, avec les deux premières années, je suis depuis à nouveau 6 ans, comme étudiant. Master 1, après une licence en équivalence obtenue à Bordeaux. Ce jour-là, à Bordeaux, j'ai appelé ma mère pour lui dire, heureuse surprise, qu'on m'avait attribué une licence de lettres modernes sur équivalence, un dossier fait de chroniques et de livres. « C'est bien, mon fils, ça t'aura juste pris un peu de temps », m'a-t-elle dit. Entre-temps, le monde, la photographie, des voyages, des travaux, une traversée de communautés. J'ai écrit dès 20 ans, je n'ai jamais été inactif, je précise, poésie, 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 puis la prose, l'obtention de la prose. Prose dite fantasmatique, récit, essai. Tout cela est né de la rencontre avec des personnes dont certains ne sont que des noms au-dessus du titre, des personnes mortes depuis longtemps et des gens vivants, écrivains ou pas. Ce sont sûrement eux qui forment à mes yeux une communauté et c'est sûrement moi qui fais et défais celle-ci, singulier comme pluriel. Et puis même un passage en entreprise, à casser du sucre, sans la moindre image, non, vraiment casser du sucre compacté avec une masse pendant qu'en dessous, il était empaqueté. L'argent gagné était reconverti en séance d'ostéopathie. Une autre communauté, celle de la manutention, celle que je souhaite aujourd'hui ici appeler une communauté de travailleurs. Comme quoi votre conscience sociale ne vous quitte pas et vous ramène le nez dans l'expérience. Le soir j'écrivais, je ne voulais pas lâcher. J'avais l'impression que ce travail harassant, si je ne lui opposais rien, aurait raison de moi. C'est un peu dramatique présenté comme ça. À cette période, j'avais déjà écrit une suite de prose intitulée « L'éducation des monstres ». Je vais vous en lire quelques-unes. Combien ai-je vu de jeunes princes se confier à moi ? Il faut croire que la royauté nous exclut de tout pouvoir. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à de salutaires rencontres. Je fais partie de ceux qui peuvent entendre la solitude amère et désabusée des princes. Je ne compte pas m'en vanter, comme je n'ignore pas que de tels aveux vont engendrer bien des jalousies. Prenons Léopold, jeune prince autrichien en exil. Il vient régulièrement à moi. Il cherche à se réconcilier avec sa parole. Depuis qu'il a compris le pouvoir des mots, sa propre tête lui semble trop petite pour affronter le monde. Où veux-tu ? Je le tutoie. Où veux-tu contenir mieux le monde ailleurs que dans ta tête ? Lui dis-je souvent avec raison. Ce n'est pas la vie qui t'échappe. C'est ta capacité à embrasser d'une seule pensée les mouvements du monde, Léopold. Nous en sommes tous là, simplement toi, tu dois répondre à un royaume, même si on t'en a délogé de manière plutôt comique. Je ne parlerai pas de cet épisode, mais Léopold fait partie de ces prétendants au trône qui espère en vain revenir un jour en régler les affaires et éclairer un peuple soumis aujourd'hui au règne de la démocratie. Devenir un roi démocrate n'arrangerait en rien les désirs frustrés de mon jeune ami prince. Je le sens apte à gouverner en tyran, avec les exécutions sommaires qu'il faut et des intrigues en nombre. Ce qui manque à cet homme en devenir, c'est du vocabulaire et rien d'autre. Si je peuple ma bouche de tant de mots, c'est pour être prêt à servir de tels rois imminents. Bien sûr, je le reconnais devant vous, ma pensée s'égare souvent. Certains diront « ce Léopold n'existe pas ». D'abord, qu'est-ce qu'un prince autrichien en exil sinon affabulation ? Et puis nous te connaissons et n'ignorons pas que s'il y a un roi en attente de couronne, c'est celui que tu abrites en ton sein. Ah, chers amis, comme vous m'accusez, comme il est facile de corrompre la bonne marche de la littérature en ne la renvoyant qu'à de basses besognes formelles, de courtes théories sur pattes. Votre cruauté, depuis que vous êtes épris d'humanisme, a rendu notre espèce bien sinistre. Pas étonnant que s'il existe un prince autrichien en exil, il cherche refuge auprès de moi. Quel mépris vous avez pour les mots. Quel manque d'invention dans vos journées. J'ai bu ce matin un excellent thé à la cannelle, avalé quelques gâteaux, inutile de me vanter, je cuisine également, et me voilà à parler alors que dehors le brouillard règne sur la ville. J'aime mon appartement et la chaleur qui y règne. Je dois m'absenter demain pour différentes affaires. J'ai, moi aussi, mille raisons de renoncer à la parole. Alors, bien sûr, annoter une pensée sur un carnet jauni, rédiger l'esquisse d'un brouillon de poème et me plaindre, évidemment, toute la journée, du soir au matin, de ma stérilité. Mort au prince, n'est-ce pas ? Le crier bien haut et ensuite empocher l'argent de la délation. Posture classique de l'homme contemporain et je n'en veux pas. J'élève ici quelques monstres, j'en prends soin. Je ne les confierai pour rien au monde à ceux qui ne croient qu'en des assemblées bavardes et rêvent d'écraser Dieu sous leurs talons. Non, je prends soin de mon humanité. Dans le silence de mon appartement, seulement parcouru des frissons de la musique, je crois dur comme fer que la parole est notre chair et qu'en méprisant les princes, nous nous méprisons nous-mêmes. Si cela ne tenait qu'à moi, je ferais interner tous les gouvernants du monde, même les plus éloignés de ma demeure. Tant qu'ils ne croiront pas la parole, je n'économiserai pas mon verbe. Vous m'entendez, vous me regardez m'agiter un peu, c'est mieux que votre passivité. Ce que vous ne voyez pas, à moins que quelques-uns ne soient éveillés, j'écris pour de tels individus, c'est que Léopold vous regarde. Oui, il vous fixe dans les yeux par ma propre parole, et vous regardant, il regarde au-delà de vous, il voit à travers vous, vous qui ne voulez pas voir homme raisonnable. J'accepte bien sûr de ma parole, comprenant la parole de Léopold qui vous regarde, tous ceux, et je le crois nombreux, qui ont déjà croisé le regard du jeune prince. D'ailleurs, je m'interroge, peut-être sommes-nous en cet instant dans une parfaite entente, et vous vous étonnez que je m'adresse à des absents. Cela voudrait dire que j'ai pris conscience des bienfaits de la parole sans prendre conscience de ceux qui avaient vu m'en prendre conscience. Aussi m'avez-vous trouvé familier, si ce n'est injurieux. Je m'en excuse. Mais la cause des jeunes princes est à mes yeux essentielle et parfois je m'enflamme. Et puis avec toute cette solitude, on n'a plus l'habitude d'une assemblée chaleureuse qui comprend chacun de vos mots et ne vous juge pas. Au contraire, elle vous a admis depuis longtemps, certains même, j'y crois à peine, sont suspendus à vos lèvres. Plaisir et ravissement. J'imagine que vous connaissez Léopold depuis pas mal d'années, il vient aussi vers vous chercher conseil afin que la parole qui lui échappe tienne dans sa tête et n'ait d'autre issue que sa bouche. Nous en sommes tous là, n'est-ce pas, à conseiller de jeunes princes en exil. Pardonnez la nature impulsive qui est la mienne, je ne vous cacherai pas que moi aussi j'ai connu l'exil. Mais tout cela, vous le savez déjà. Ah, petite humanité qui est la nôtre, toujours en exil et même de retour au pays, jamais à sa place. Je vous lis maintenant le numéro 21. J'ai dû adopter une famille qui n'était pas la mienne, pleurer avec elle les disgrâces que le monde marquait sur son corps abruti. J'ai travaillé longtemps pour cette famille, comme on creuse une matière pour de l'or, n'importe quoi dans l'espoir de moins souffrir. Oh, bien sûr, je conçois cette peine comme très commune et la répétition des drames comme un point également commun à l'humanité. Oui, commune, communauté, tout cela est très commun. Je m'applique à recueillir des éléments très simples de la réalité, mais je sens que pointent de ci, de là, des choses singulières qui donnent des allures de minotaure au petit chien dans la cour, des gestes de reine à la vieillarde au fond du jardin, et d'autres choses dont je ne suis pas encore parvenu à noter le passage. Je crois beaucoup à la fièvre qui me saisit quand je vois mes petites mains gourdes prendre ce cahier et faire comme si elles parlaient à voix haute. L'idée que mes mains parlent à voix haute n'est pas si originale. Mais que dire du timbre même de leur voix? N'est-il pas singulier? Ne révèle-t-il pas ce que nul ici n'a envie de chanter? Oh, bien sûr, je conçois que le chant est une peine commune, qu'il est plus intéressant de faire des phrases et de les murmurer derrière le monde plutôt que d'élever des sons vers l'oubli. Soit, ennuyez-vous lors de votre vivant. Moi, j'ai une famille à nourrir, toute une famille qui n'a pas eu le temps d'apprendre à vivre par elle seule. Elle gémit, elle peine. Oui, concevez cette peine, peine à se rassembler, à se dire « Je suis doué pour cela, telle ou telle chose, ne serait-ce que cette légère espérance. » Je fouille de mon museau dans de ces petits papiers et brûle le moindre qui ressemble à une sentinelle. Il y a des hommes en faction devant ma peur. Ils savent ce qu'il y a à saisir dans ma maison, oh, pas les meubles. Seulement cette famille qui demande poliment à changer son ignorance en savoir. Quelle connaissance pourrait-elle acquérir qui ne ressemble pas à ces travaux abrutissants où la vie est reléguée loin de nous? Il y a de l'espérance dans ma prose, de l'amour dans cette famille venue de nulle part. Écrire et prononcer à voix haute cette écriture, je sais que cela nous arrange avec le monde, nous aide à mieux sentir le fer qui nous pénètre. J'exagère. J'aimerais être comme cet arbre dehors, qui élève ses branches vers le jour sans dévoiler le secret qu'il partage avec la terre. Peut-on être ainsi, vivre doublement et ne pas s'y soumettre? J'ai écrit les méditations et haute brièveté à cette période de travail de manutention, puis après. Cela parle en fait de ce qui me préoccupe en permanence, qui s'appelle le genre humain. Le genre humain est fait manifestement d'une foule de communautés, tantôt préoccupées de rester entre elles, en elles, devrais-je dire, ou de convertir, convaincre de nouveaux arrivants, voire d'autres communautés. Tout cela, quoi qu'on en dise, concerne, regroupe le genre humain. Tous les jours, je pense à l'humanité, ce qui peut être épuisant, mais comment faire autrement? Ne penser qu'à soi, je veux bien, mais cela ne satisfait pas, à mon sens, l'écriture. Bien sûr, la photographie, du moins telle que je la pratique, c'est-à-dire entre la photo en mouvement, liée parfois ou souvent au voyage, et l'album des êtres, c'est-à-dire la famille humaine, c'est, on l'aura deviné, une reconnaissance pleine du genre humain et de la multiplicité des êtres, une traversée effective, parfois dangereuse, des communautés. L'éducation des monstres, méditation et autres brièvetés, et ce que j'ai accumulé dans mes cartons en travaillant seul, consciencieusement, a dessiné une figure, figure qui s'est imposée à moi, celle de l'auteur. Depuis, j'ai achevé un récit, Notre auteur dans l'espace, qui raconte une résidence d'un écrivain dans un vaisseau spatial, c'est-à-dire un départ, mais d'abord une critique du monde littéraire ambiant, puis un autre, l'auteur et sa traductrice allemande, le monologue d'un auteur récompensé par un grand prix littéraire international, un auteur qui a fait la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie dont j'ai toujours eu l'impression qu'à Bourges, dans ce quartier nord des Gibjons dont Jean-Christophe Bailly parle dans son dépaysement au sujet d'un beau projet paysagiste, que ces termes, guerre d'Algérie, étaient suspendus dans l'air au-dessus des HLM comme un problème irrésolu. Et c'est ce qui s'est passé, car depuis les années 80 et l'élection de qui on sait, j'ai vu tout cela se marginaliser, gagner en violence, c'est-à-dire une solitude incompréhensible et qui fait que le mot « communauté » est pour bien des gens soit la vérité à atteindre, la vérité à préserver, soit une manière de rire, de trouver ce mot misérable et l'envie de vous cracher au visage. Cracher au visage est une envie que j'ai gardée et qui m'a même fait écrire une série de poèmes. Je vais vous lire maintenant quelques extraits de Méditation et haute brièveté. D'abord, le quatrième de couverture de ce livre aux pensées numérotées. Soit, c'est un livre qui pense, avec les dites pensées numérotées, un peu comme ces chambres d'hôtel derrière lesquelles le plaisir nous attend, à moins que la porte ne se referme sur une version de l'enfer. Ce présent texte pourrait bien sûr vous abreuver d'extraits, comme on cherche à convaincre par l'emploi de quelques sentences. Le quotidien vibre de toutes parts. Avoir des certitudes a parfois ses avantages. Néanmoins, malgré la nature méditative de ces proses, confirmée par le titre, parlons de l'autre versant qui descend, la brièveté. En toute chose, n'est-elle pas la vérité qui nous rassemble? Ici, le fantasme vient rôder, la blessure ne se fait pas entendre, toute affirmation s'énonce difficilement parmi tant de hoquets. De quoi exactement s'agit-il, pourrait-on dire, avant de laisser le livre prendre la parole ? Ne répondons pas. Tout en ce lieu est devenu vivant à force de signes et de sens. Soyez juste les bienvenus parmi ces demeures souriantes et ces lieux d'écorchement. D'accord ? Si vous entendez une petite musique, vous pouvez retourner l'ouvrage. Il commence ainsi. L'ouvrage commence par « Bonjour ». Mais au bout de quelques pièces numérotées, consacrées pour certaines, enfin pour toutes déjà au début, à l'enfance, il y a un interlude, le premier d'une série. Je vais vous lire cet interlude. 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 Je vous propose de faire une pause dans la lecture de cet ouvrage intitulé « Méditation et haute brièveté ». Après ces différentes considérations sur l'enfance, dont l'auteur s'est quelque peu repu entre le sentiment d'avoir des choses à régler et une inclinaison à la digression qui ne favorise pas une étude tenue, propre à une époque douée en résurrection de beau style, pas tenue comme une femme par un corset, exemple parmi tant d'autres, quoi qu'on puisse apparenter de telles divagations à d'autres comparaisons, où pointe le sourire d'une frivolité qui a réglé son cadran sur des heures inexactes, digression dans laquelle il s'établit parfois tant il est bon, pour certaines de ces personnes qui s'installent dans des livres et referment la porte derrière elles, de déballer un lot d'images dont la vertu première serait le surnombre et la seconde leur difficile recension. Donc, reposons-nous un instant. Vous pouvez, pendant ce temps, faire circuler la pétition de la page précédente. La page précédente, il y a une pétition avec un commentaire. Laissons de côté l'auteur, chacun sa pudeur. D'ailleurs, n'était-ce pas plus intéressant, plutôt que feuilleter ce livre, de se ventiler avec, tant il fait lourd de nos jours dans la lecture. On peut aussi se détendre, les jambes, bavasser ou jeter un caillou à ce chien qui passe. On peut aussi en profiter pour écrire une lettre à quelqu'un qu'on aime bien, multiplier les clins d'œil à sa voisine et jouer le naïf en s'approchant d'une table et à la fin, tac, dire des choses tellement essentielles que les autres rougiront de les avoir méconnues. Somme toute, nous agissons ainsi quand il s'agit d'écrire. Une sorte de sincérité désabusée, qui connaît très bien ses effets, est à l'œuvre. On fait le petit idiot capable d'amasser des phrases, puis on se change en un voluptueux savant, on commence à impressionner, je ne parle pas des essayistes, ces messieurs qui écrivent en différentes parties, ne font que ça. Puis on commence surtout à jouir de la soumission en cours. Tiens, tiens, je te tiens, petit lecteur poisson. Tu as lu tout innocent le premier chapitre et te voilà maintenant coincé en pleine orgie. Difficile de ne pas donner un peu de ta chair dans ce grand fatras d'organes. Hein. La virginité est un jeu, on perd-gagne, perd sans cesse. Tu n'en sortiras pas vainqueur de ces étreintes, c'est là le seul piège que je puis dresser dedans les beaux domaines de ma médiocrité, je n'ai que ça. D'ailleurs, tu vois bien, on commence à s'interroger sur la manière dont le livre peut être lu, on dérive sur l'enfance, on s'énerve un peu, puis on demande d'adhérer, signe-là camarade. La littérature s'invente ainsi, la traversée de l'enfance, le dénombrement des signes, la mise en écriture des expériences les plus indicibles. Comment voulez-vous que l'on survive à tout cela ? On comprend aisément ceux qui rejettent les livres pour apprécier la réalité toute courte. Non, désormais pervertis, ne parlons plus de réalité, parlons du réel. Ah oui, et le grand énervé qui attend au coin de la rue avec son poing bien serré, croyez-vous qu'il résonne en termes de réel ? Il tient tout entier dans sa réalité, lui. Il en est tellement façonné qu'il en étouffe. La voie royale de l'esprit n'est pas pour lui, surtout aujourd'hui. Par contre, pour nous, aujourd'hui est un point et il va l'asséner sur notre face bienheureuse. C'est pour cela que remontent parfois des accents de violence dans les textes, juste parce qu'on a regardé par la fenêtre. Dans de tels instants, c'est soi-même qu'on attend au coin de la rue. Salut moi-même, tiens, prends ça sur le nez. Alors l'érudition des essayistes, je veux bien, mais considérez aussi le mensonge qui y préside. C'est utile d'avoir tout ça à l'esprit quand on veut faire une pause. Vous voyez, cette prose, on peut la comprendre, elle a sa densité peut-être, elle demande peut-être d'y revenir, c'est la seule condition, enfin peut-être pas la seule, pour créer un espace vrai dans le marasme littéraire actuel, à mon sens du moins, disons un peu d'intensité quand même. Et puisqu'ici on parle aussi de communauté de lecteurs, permettez-moi de dire que côté librairie, il n'y a d'indépendance, malgré toutes les considérations économiques, souvent géographiques, qu'avec un choix, choix qui se soucierait de l'excellence des livres présentés et non de leur accessibilité pour tous, comme si on rêvait chacun d'un grand magasin qui n'a rien à voir avec la bibliothèque d'Alexandrie. Sinon, c'est cette librairie que je retrouve partout avec les mêmes tables, les mêmes éditeurs, les mêmes livres. Alors quand une différence existe, pas de coup de cœur de livre super chouette, mais bien la littérature, le souci de se demander si ce livre est essentiel. Fin de la parenthèse. Dans Méditation et haute brièveté, j'écris sur différentes choses, par exemple l'écriture, le lecteur aussi. Je vais vous lire le fragment 90. Je cherche. Voilà. La pièce manquante. On peut bien sûr s'envisager comme un laboratoire, attendre du lecteur qu'il y mette bon ordre. Cet amas de pensées, cet entassement de poèmes, ce débarras de fiction, toutes ces expérimentations en cours que nous livrons comme filtrées par le génie de la forme, tenant devant le lecteur comme un objet mental propre à avancer grâce à l'équilibre de son corps, nous savons au fond de nous-mêmes la monstruosité qui a présidé à leur naissance et continue de les accompagner. On espère que dans ce laboratoire, chaque éprouvette contienne la bonne solution, chaque note une vraie direction, chaque formule le sens. Nous nous éclipsons, parfois dans la mort, pour observer en cachette le lecteur. Fort bien habillé, il entre. Tout lui semble propre et extraordinaire. Même notre saleté semble détenir des secrets de vertu. Laissons-le faire. Voilà qu'il manipule à son tour ses filtres dangereux, réveille des alchimies fragiles, anime un feu étranger à son propre souffle. Qui diable est-il, cet homme, pour si bien nous connaître et profiter de notre personne sans se soucier de ce que nous sommes vraiment? Est-il frère de ces essais douteux, ou tente-t-il par son esprit d'affiner la grossièreté d'une autre? Il semble plus avancé que nous, sans avoir eu à douter de la même manière, sacrifier ou détruire, célébrer ou espérer. Est-il de la même chair? A-t-il accès à un paradis perdu au sujet duquel nous ne cessons de palabrer? Il ferme à double tour en repartant. Soit nous avons la clé. Comme par effraction, nous pénétrons. C'est encore le même lieu, les mêmes croquis qui se veulent vérité, les mêmes esquisses qui se disent livres. Qu'avons-nous inventé? Serions non plus un sujet d'étude que l'objet étudié? Quel œil est le nôtre? Et quel œil nous regarde? L'esprit a-t-il conçu ou n'est-il que le rêve d'une conception? Le lecteur nous invente, mais reste silencieux, comme s'il savait secrètement, lui qui a accès à tout, que son silence est la matière de nos expérimentations et qu'il est là pour se nourrir de ce que nous en faisons. Page 66, fragment 66, à repiquer pour une manifestation littéraire. Ce n'est pas par prétention qu'un écrivain confie qu'il écrit les livres qu'il aimerait lire. Il sait que ceux-ci prennent place dans une bibliothèque où son plaisir naît principalement de la lecture d'auteurs dont les recherches, les errances, les beautés comme les troubles le nourrissent. Cependant, dans cette masse s'est glissé un étrange manque, l'envie de lire quelqu'un qui en sait davantage que nous sur nos obsessions, quelqu'un qui a trouvé la langue pour les dire, voire même les raconter. Ce livre, ne rêve-t-on pas de le tenir ouvert sur ses genoux? Comme jadis l'aventure merveilleuse qui faisait éteindre la lumière à contre-cœur, nous qui avancions au-delà du temps. Quand notre livre existe, bien après sa rédaction, dans sa forme publiée, quand il est devenu l'objet dont on lit la tranche parmi la vaste histoire de la littérature, nous le saisissons avec tendresse et l'ouvrons. Qui parle de tendresse? Ces phrases alignées avec peine racontent plus souvent le mal qu'elles eurent à s'ordonner ainsi et ne racontent les pauvres rien d'autre. Nous lisons ces obsessions comme la déclinaison des fameux thèmes qu'il nous fallait relever et lève. L'histoire n'est qu'une suite pénible d'épisodes. Si la grâce est quelque part, c'est peut-être dans ce vieux volume latin à côté. À ce sentiment d'échec se juxtapose parfois quelques félicités à lire à la place d'un tel constat un autre récit. On prend des nouvelles d'un être cher. On sait que son style ne peut prétendre à davantage. On songe avec affection qu'il est devenu un peu quelqu'un en écrivant et publiant. On est heureux pour lui, on lui pardonne ses maladresses. Parmi ses lecteurs, n'oublions pas ce qui relève de la prétention, malgré ce que l'auteur indique au début de ce texte, celui qui écrit avec le seul souci d'éblouir de sa seule personne. Il ouvre ses livres avec la fatuité d'un homme qui relit régulièrement les traces de son génie pour ne pas le perdre de vue. Aussi, ses ouvrages trônent-ils parfois au-dessus de son bureau, comme le nom de l'auteur au-dessus du titre. Écrire pour rien d'autre que ces objets qui font mesurer le passage du temps, et dans le même mouvement retrouver les yeux écarquillés de l'enfance, comme j'aimerais m'établir dans un tel paysage. Ma vérité, cette histoire que j'eus, et avec les mots et avec la pensée, comme les deux fusionnèrent en un seul corps, tout comme ils se distinguent, puisqu'il faut deux jambes pour avancer. Voilà que je prends mon livre dans l'étagère, saute de page en page, entre affection et dégoût, j'oscille, exactement comme un enfant qui ne sait pas grand-chose de lui-même et invente ses propres histoires quand ses yeux se sont trop fatigués à dévorer les livres d'autrui. 68. Au cabinet. Vous avez remarqué, beaucoup de personnes parlent d'art avec une élégante froideur. Ont-ils perdu leur capacité à s'émouvoir ? Leur distance laisse deviner qu'elles avaient en eux quelques rigidités scientifiques. Elles l'ont appliquée avec le temps aux domaines artistiques. Jamais elles ne vont être prises au dépourvu. Chaque lecture ou relecture s'établit dans un ordre précis. Ceux qui, entre vertige et jubilation, expriment leurs sentiments sur telle œuvre ou tel artiste, ces froides personnes les reçoivent comme des patients, les écoutent d'un air absent, puis leur donnent une prescription, figure noir sur blanc, les pensées que ces touchants malades devront avoir désormais sur le sujet de leur passion. La consultation est gratuite. On pourrait croire que c'est pour ces tristes érudits, il y a là quelques regrets. Non. Leur force est de ne laisser poindre aucune incertitude lors de cet entretien factice et d'être simplement au point avec leur fiche de culture. Deux. Réfutation du monde, quoique. Je ne me suis pas inventé de devoirs, quoique parmi les devoirs ambiants, qui ne sont pas les miens et ressemblent peu ou prou à des marécages, j'ai affiné tant de nécessités que je peux baptiser aujourd'hui plusieurs de celles-ci du nom de devoirs et apprécier en tout homme quelqu'un qui suit un chemin similaire et parvient à la grâce d'un certain louvoiement. Je laisse ces marécages en l'état, ne me donne pas l'obligation d'aller contre les devoirs imposés par autrui. Ces marécages accueilleront peut-être un jour ce peu de lumière qui est mienne et que je tente de protéger. Éprouverai-je alors, en pénétrant l'humidité de cette terre, quelque fraternité nouvelle pour la communauté. Trois. Fashion to fashion. La recherche de vertus nouvelles chez nombre de mes contemporains me fait penser à ces individus qui trouvent dans des modes vestimentaires passés de quoi briller lors d'une soirée. Le simple fait de programmer haut et fort une telle nécessité, ces supposées vertus, nous éloigne de la simplicité cachée dans laquelle celle-ci repose. J'imagine volontiers qu'elles portent les vêtements que les temps anciens ne leur ont jamais enlevés et qu'elles choisissent plus de nous vêtir que nous pouvons espérer être vêtus d'elles. 104. Gentiment. Avec quelle douceur certaines personnes nous méprisent. Elles nous lavent de leurs paroles condescendantes, donnent l'impression que leur bienveillance érige un voile autour de nous, alors qu'elles nous désirent nus, au beau milieu de leurs fables. 95. Flash spécial. Il peut y avoir de l'humilité dans l'écriture, comme il y a au dehors, dans le monde des lecteurs, des savants et des critiques, de quoi juger cette humilité indésirable en une époque où la séduction doit convaincre plus que l'esprit ne doit émouvoir. 91. Pour le passé, repassé, classique. Désolé, je ne suis pas encore prêt pour d'intimes travaux biographiques. Qu'ai-je à raconter d'un passé qui n'attendait que ce présent ? Plus tard seulement, je revisiterai ces lieux qui paraissaient sans histoire, plus encore, indignes d'être racontés. Ma propre banalité, pour l'heure, me paraît trop proche. Dans quelque temps, elle deviendra la source, s'éloignera de toute légende pour devenir la chronique simple d'un temps et pourquoi pas d'une époque. J'aurai alors peut-être un peu plus en mémoire les temps présents. L'histoire, avec un grand H, non sans grâce, trouvera voix dans ma bouche, elle aura plus exactement voix au chapitre. Songe vers de tels gestes, presque des rituels que j'essaie d'aller. Nul besoin d'arrêter le temps pour articuler une parole juste, n'est-ce pas ? Ma triste vérité contemporaine la voici. je n'appartiens pas encore à mon passé. Peut-être ce que j'ai dit en ouverture contrarierait quelque peu. Évidemment, ce propos, je ne demande pas mieux que de la contradiction parfois. 94. Invitation à une lecture pudique. On peut lire ces textes à un petit cercle fidèle, soi-même divisé en mains, pieds, jambes, tronc, sexe, bras, ventre, dos, fesses, cuisses, gorge et tête, chaque partie remuant du chef à tel ou tel passage, approuvant ou pas, s'inquiétant dès qu'elle se reconnaît dans certaines paroles, individus ou fantasmes. Longuement enroulé autour de soi en ces diverses pièces, on écoute attentivement. On acclamera peut-être le genou s'appuyant sur un poignet pour quelques bruits, le ventre se frottant à un sein. Toutes ces histoires, ces pensées, ces écrits auront servi l'intérêt si légitimement égoïste de ses membres. Le lecteur, loin de ce petit cénacle, aura imaginé que ces écrits parlaient de l'homme. Il ne parlait que d'un seul, une totalité d'hommes calculée à partir de ces divisions. Interlude, mais celle de la page 126. Interlude avec mort quotidien. En écrivant, j'ai parfois l'impression de veiller à un mort. Il se tient allongé, ne dit rien. La vie l'a belle et bien quittée, et ce n'est pas moi qui vais tenter de le réveiller. Ce fait n'est pas nouveau. Aujourd'hui, avec ce beau temps, si je devais convoquer tous les écrivains vivants, les professionnels, les autodidactes, les pauvres et les occasionnels, j'imagine qu'ils me confirmeraient ce sentiment, affirmeraient même qu'il n'y a pas là le moindre fantasme, seulement une évidence à laquelle ils se sont rendus depuis longtemps. Avec le temps, je réalise, ces petites mains s'agitant sur le clavier de la machine ne le démentent pas, à quel point ce mort m'est devenu familier, sans pour autant s'intéresser aux aventures de mon langage. Peut-être a-t-on décidé, à l'aube des temps, de donner un mort à chaque écrivain, comme on affuble un être simple d'un surnom. J'ai de l'affection pour ce mort, même si je reconnais qu'à m'entendre vivre à ses côtés et respirer si fort, comme pris dans une lutte, il doit éprouver bien plus d'ennui que de sympathie à mon égard. Qu'ai-je inventé qu'il ne connaisse pas, lui dont j'imagine qu'il apprécie par exemple tous ces tableaux flamands avec un crâne au beau milieu du motif? Ce mort est terrible parce qu'il ne cherche pas à avoir une histoire. Il est là, à s'ennuyer peut-être, tout en me provoquant par son silence pour voir de quoi je suis capable. Si j'arrête d'écrire, peut-être ouvre-t-il alors les yeux et se met à bavarder dans un monde auquel je n'ai pas accès. J'ignore si cette pensée est d'une quelconque fécondité, mais c'est tout ce que je puis dire. Dans la pauvreté de cette vision, je ressens toute l'affection que j'ai pour lui. Peut-être me juge-t-il en ce moment d'avoir si peu d'imagination, surtout après tous ces tableaux flamands devant lesquels j'espère ne pas démériter alors qu'ils n'ont rien à voir avec mon propre livre d'images. Tel est l'échange que je nous prête. Je suis en compagnie d'un mort invisible qui, lui, ne contemple que des crânes peints sur des tableaux anciens, des crânes qui, comme lui, ne se préoccupent pas de nos périssables personnes mais nous fixent pourtant, avec dans leurs orbites creuses le silence d'une vie à jamais inconnue de la nôtre. Les bienheureux. Chaque individu enclin à la narration porte en lui un récit de métamorphose. Elle poussant dans le dos, humanité changée en cheval, dents longues à l'apparition des nuits, ou mandibule honteuse à cacher à l'heure des convenances. Le récit s'écrit ou pas, voilà pour ceux qui sont parmi les lettres. D'autres poursuivent les flots tout aussi méandreux de leur existence sans donner parole à de telles interrogations, même s'ils reconnaissent que de telles visions les effleurent. Il y a surtout ceux que ces images stupéfient. Ils sont comme les bienheureux. Le corps humain est ce qui leur a été donné de plus beau à habiter. Ils ne parviennent que difficilement à y vivre et ne craignent qu'une chose, c'est d'être chassés d'une telle perfection. J'ai parlé de la politique ou du politique. Mais quand on dit ça, je trouve la tournure intimidante. Aujourd'hui, un auteur cherche facilement à intimider. Évidemment, beaucoup de choses passent par le langage. On ne dira pas « j'écris sur les jardins ». C'est plus chic, lors d'une rencontre littéraire ou un passage à France Culture, par exemple, c'est nettement plus chic de dire « je me suis beaucoup posé la question du jardin ». D'ailleurs, on n'écrit pas sur le jardin, mais on écrit autour du jardin. Ce sont ce genre de pauses qui me motivent aussi dans l'écriture et qui font de mes livres des ouvrages critiques. Et il faut que les livres le soient et que Rebelote, les librairies, soient le lieu d'accueil et de diffusion de cette critique. Ce qui n'empêche pas le rire, le grand rire énorme. Le grand rire énorme et politique. Je vais donc vous lire des passages politiques qui se succèdent dans Méditation et Haute Brièveté. Normalement, je devrais. J'ai repensé à un anagramme tout à l'heure. Maurice Blanchot, ça donne « Oui, Marc Blanchet ». Je voulais vous le livrer parce que je pense que c'était le moment de le livrer pendant cette manifestation. Évidemment, quand je le dis à des amateurs de Blanchot, ils deviennent très tendus. Et je ne comprends pas. Moi, j'ai beaucoup d'affection sur Maurice Blanchot. J'aurais aimé gratter à sa porte et lui raconter. Il m'aurait accueilli avec joie, je pense. Ah, la bourgeoisie. La pensée d'un homme mène à sa propre érosion quand l'acidité qu'elle secrète ne devient jamais une matière utile à l'épuration de ses doutes et égarements. Aussi voit-on, il y en a plein les villes, des êtres dont l'expression traîne toujours derrière elle des accents âpres, des dissonances pleines de soufre. Leur bienveillance laisse dans l'air un relent nauséabond. Au moment où ils voudraient dire tout d'eux-mêmes, nous entendons les échos de leurs paroles. Elles se voulaient eau vive et se découvrent troubles dans un trop large courant. La question est donc comment les aider. Situés à ces qualités, nous sommes réunis ici pour dégager de nouvelles perspectives d'aide à notre prochain. Ne l'avons-nous pas trop souvent dévoré, cet illégitime ? N'était cette bête ressemblance, on serait loin de lui. Et voici qu'on en est plus ou moins le valet. On se soumet entre deux rires à cet autre plein de fatigue qui chemine si bien que le voilà arrivé chez nous. À table ! Non, nous n'avons pas envie de dire ou d'écrire à table. Même s'il y a un peu d'enfance dans cet appel, même s'il demeure un peu d'une affreuse enfance dans cet appel, je ne pense pas à une mère ogresse tournant la grosse cuillère dans l'épais chaudron, avec une forêt au dehors et des yeux de loup suppliants. N'empêche, l'ami humain est là. Que faire sinon le nourrir, même d'indifférence ? Et puis l'évidente question se fait entendre, si c'était nous. Nous à notre tour. Nous à nourrir, après nous nourrissant. N'est-ce pas ce type de question qui, même sans réponse, s'énonce telle des vérités ? Mon beau, tu as beau faire toutes sortes de conférences, il te faut désormais considérer l'homme seul, usé par ses pensées, secrétant non sans fécondité, un étrange acide qui a raison, ô combien inconsciemment, de ses résistances. Et puis cette puanteur, il faut la combattre. Sinon, nous allons nous retrouver, chers frères humains, dans un bien triste paysage bourgeois. Et je ne redoute plus son expansion. Et je redoute plus son expansion que celle de notre misère. Pauvre, on peut le demeurer, avec des dents noires et des sols d'habitation en terre battue. On peut câliner sa sœur, manger la cuisse de l'aîné, culbuter le père, pour dire un peu rapidement les activités principales des pauvres. Ce qui n'est rien devant la bourgeoisie de l'époque qui invite à penser parmi d'idiotes réjouissances. Et comme une pensée même médiocre peut avoir raison de soi, défions-nous, mes frères, défions-nous. Comme en plus les dernières expérimentations de la science bourgeoise portent sur l'écriture, jusqu'à des paroles innocemment jetées en l'air, il faut bien s'y prendre. Ne laissons pas sur le bas-côté les hommes toussant leurs ténèbres. Tendons nos mains, fussent-elles moignons. Et diable, mettons à l'écart nos projets littéraires. Ce n'est vraiment pas le moment. Je dis ça parce que j'en vois certains se préoccuper de la misère des autres sous ce mode-là, et ça ne me semble pas heureux, quoi qu'ils prétendent. Que voulez-vous ? Il faut être le médecin d'autrui. Vous comprenez, mes amis ? Les avez-vous vus, ces mi-humains se traîner en plein jour sans la moindre pudeur ? J'ai tellement de sympathie pour les pauvres. Comme tous les hommes de mon rang qui un jour se sont penchés. Comme beaucoup d'auteurs en prose, d'ailleurs. Non que je sois opposé à ceux qui font des vers, mais j'utilise des drôles de termes pour parler des pauvres et s'oublie un peu dedans, gravat, boue, truelle, et un mot très curieux, ouvrier. Moi, je veux mon quota de pauvres, je vais même en inventer si certains manquent, et ensuite on va montrer nos crocs et s'en prendre responsables, les bourgeois. Mon Dieu, je n'ai jamais été aussi politique. Il va s'en passer des choses. Tout ça, à moi révélé, en commençant un texte où je parlais savamment de ceux qui traînent du soufre derrière eux. Car il faut être très déçu d'être pour ne pas épurer ainsi ce flot de perversion en soi. Seulement, le mode d'emploi de la vie, tout le monde ne l'a pas eu. Vous entendez comme j'élève la voix? Il faut élever la voix, donner du gosier pour soustraire l'humain à sa médiocrité. Bougre de pauvre, comme vous demandez de l'attention. Un bourgeois est plus discret, il faut lui reconnaître ça. Et puis cette manière que vous avez, mes pauvres, de ne rien dire lisiblement. Vous rendez les bibliothèques inutiles, ce qui est un de vos grands péchés. Pas seulement. Si vous n'aviez jamais existé, qui dit que je n'aurais pas donné d'autres aventures à mes mots? Il faut composer avec vous, soit. Avec cette pauvreté où chacun se reconnaît, jusqu'à mépriser sa richesse. Il faut traîner la patte sur votre sentier, écouter vos sempiternelles revendications, comme si l'écriture pouvait être la réponse. C'est bien naïf de votre part que d'incorporer ainsi votre souffrance à la littérature. Je pris mon archer et me mis à jouer du grand roman social. Voici l'ambition des pauvres. Je plains le bourgeois, mais bon, puisqu'il faut vous défendre, allons-y. Une condition cependant, du feu. Je veux du feu pour m'unir à un tel geste. Du feu, je veux du feu. On nettoie le mal par le mal, l'acidité devant le feu n'emmène pas large. Ensuite apparurent de doux paysages. Nous bûmes le lait du troupeau en regardant naître les étoiles. 37. Écrire, c'est comme filer des tuyaux. Démonstration. Il est utile pour appréhender le monde de connaître ses peurs. Les hommes qui s'y refusent masquent leur rapport au quotidien. Cela commence au matin par la crainte d'un premier geste et se termine le soir par cette étrange paralysie qui tient le corps en une seule larme. 38. Ça va saigner, enfin. Nous voici arrivés au milieu du livre, ce qui ressemble toujours étrangement à la vie, avec bien des déchets sur le bas-côté et en même temps le plaisir fou de les nommer, eux qui jadis n'étaient pas dignes d'intérêt, tant nous voulions souper dessous le ciel et reconnaître dans les nuages nos petits propos égoïstes. Maintenant, on est charmé de dire le nom quasi latin de tous ces immondices qui feraient bien une décharge n'était notre besoin d'avancer. Pas de forêt épaisse, seulement le grand désert urbain, ses tours dressées, énormes tellement qu'on dirait des insultes. De même, il y a ce regret qui n'a pas envie de se dire, qui se passe bien des mots, s'en passe si bien qu'on finirait par l'oublier à défaut de l'admettre. Bref, beaucoup d'odeurs fortes, de monde contemporain nauséabonde, encore plus de l'aigreur dans la gorge. On y prend goût à détester ainsi toutes ces choses imparfaites, désormais encombrantes, d'une telle puanteur, même si elles offrent un nombre conséquent de synonymes. Alors un murmure se fait qui grossit, oui, grossit comme tout murmure qui dans son courant brasse des rumeurs. Une clameur superbe se dessine à sa crête, il est temps, au beau milieu du chemin chaotique de la vie, de se demander s'il ne serait pas temps d'agir. Oui, après ces belles pages légèrement fardées d'esthétisme, pas vraiment d'érudition, ce que l'on ne me pardonnera pas quand il est bon aujourd'hui dans la gorge de la prose d'y mettre un peu de grec ou d'ancien, ces pages bien séantes tirées aux épingles de l'élégance, après toutes ces pages, ne serait-il pas heureux d'être un peu dans l'action, histoire de se contredire et de mourir dignement, histoire aussi de contraster un minimum avec le service appliqué des romanciers, ravis de déambuler parmi les pots pour ensuite donner de riches leçons ou de moins d'écrire des livres, sans ne plus mettre un nez rebelle dehors, là, vous savez, dans la rue, où c'est moins calme. Oui, oui, j'ai presque l'impression, en doublant ce mot de m'adouber, allons dehors. Bien sûr, nous n'irons pas tout casser sans quelque culture politique. Je veux bien fureter dans une bibliothèque pour m'instruire et reprendre des termes indémodables. Seulement, je ne l'accepterai que si vous consentez à faire de vos bras cultivés des bras armés. Et vas-y que je t'égorge, représentant de la loi. Je m'en réjouis d'avance. Comme cela va être, pour quelques jours du moins, plus joli que ma prose, plus vrai que mes propos à voix haute que moi seul entends, aujourd'hui du moins. Nous allons tous parler d'une même voix, ce n'est pas la moindre des choses, avancer et brailler d'un gosier commun. Milieu d'un livre, au milieu d'une vie, un jour faire en sorte que l'on pense en dehors de soi, que dehors devienne le lieu qui nous prouve. Je vous promets alors qu'on avance autrement. Mieux, on surgit, on est imprévu, inédit. C'est ce que nous cherchions et, argument publicitaire, c'est ce que le lecteur cherche. Si, si, monsieur l'éditeur, vous pouvez vous gausser pour l'instant, n'empêche, entre deux heures brûlantes, l'apprenti en combat viendra vous acheter le livre qui a tout déclenché. Ah, le livre rêvé. Même si j'espérais, comme tout homme désarmé, de bâtir un semblant de religion par les mots, me faire le prêtre inspiré des miennes méditations avec une assemblée transie et des créatures affriolantes en veux-tu, n'en voilà. Même si j'ai voulu retrousser les manches de la chasuble, élever les bras et brandir « l'ouvrage trop longtemps tue ». Je devine en ce jour lourd comme un frimur qu'il n'est pas question de porter la parole en un endroit secret, mais en pleine lumière, parmi les hommes, de braves hommes auxquels la parole fit et fait défaut. Ô frères humains, étonnamment peu lyriques, écoutez ma voix, lasse des ténèbres, et toute surprise de s'esbaudir devant ces effondrements, ces incendies et coups cassés. Nous n'irons pas de main morte dans ce monde. Il va y avoir du dégât, croyez-moi. Et ce n'est pas ce vieux fond poétique qui va me retenir. Faisons fi tabula rasa pour ceux qui comprennent, égorgeons clairement. Je peux bien sûr théoriser en direct tout cela, mais surtout courons parmi la pourriture et la désagrégation. Cela finissait par sentir fort, le sang recouvrira tout cela. Je n'attendais pas moins de nous tous. J'avoue que vous m'avez pris de court en vous énervant comme ça en pleine rue. J'en fus bouche bée, mais bouche bée ne demeurait pas. Moi aussi j'avance sur un sentier qui ne mène pas loin si ce n'est nulle part. Moi aussi, homme instruit, je doute comme vous, homme non instruit des livres. Et ma foi, si on peut en enfoncer un dans la gueule de l'ennemi, ça ne suffit pas. J'ai un mot d'ordre, soyons moins créatifs. Du feu, du sang et de l'inédit, j'en ai assez des mondanités. Penser seul se prête à de tels usages. Je vous embrasserai bien, mais mon affection serait-elle aussi mondaine? Je suis terriblement conscient et je préfère mordre l'ennemi. Oui, l'ennemi s'est multiplié, on le repère à plein nez, il sent bon. Il se parfume, se cocotte, le dégénéré. Si j'en chope un zou, je lui découpe un filet sur sa pomme d'Adam. Plus tard, seulement plus tard, j'écrirai un traité sur le bon maniement des armes idéologiques. Pour l'heure, je suis dehors et ça donne plein de coups de pied. Aïe ! Eh oui, méprisable ennemi, ça fait mal d'être contredit physiquement. C'est le propre des grands changements, ils vous blessent. Mais je n'ai pas le temps, stupide ennemi, de me fondre en explication. Paf, paf ! Ah, je serai peu littéraire. Bim, boum, mort au mot. Vous venez, camarade ? Non ? Vous hésitez ? Et vous, pauvres esprits, les premiers dehors à tout brûler, vous voulez faire une pause, discuter ? Curieux. Moi, j'avance. Et si je dois faire cela tout seul, tant pis. J'élèverai ce qui ne fait jamais obstacle à une révolution, des barricades. Interlude de tout un chacun. Certains individus portent en eux un roman dont ils essaiment les chapitres dans des conversations. C'est un vieux compagnon affectueux qu'ils présentent, comme d'autres déclinent leur identité. Ils vantent le projet de l'écrire enfin, le confiant depuis si longtemps, que nous éprouvons l'envie parfois de leur dire que nous apprécions ce fantasme, mais qu'ils ne doivent pas nous faire croire, et encore moins se faire croire, qu'ils passeront à l'acte. Cette réflexion à leur sujet naît d'une réelle lassitude. Elle peut aussi leur être adressée comme un stimulant, une taquinerie, un clin d'œil devant une promesse sans cesse reportée. Certains de ces auteurs en sursis réagissent parfois très mal à notre réserve quant à la rédaction toujours plus retardée de leur œuvre. Doit-on se dire qu'une telle réaction est à l'image de cette impossible narration et qu'à se piquer ainsi avec l'aiguille de leur propre orgueil, ils manquent déjà singulièrement de style. Et puis, dans ce que j'écris, il y a le théâtre qui a été comme la photographie. Avec l'image photographique, tout devient excitant, on peut dire, même l'horreur. Un animal crevé, par exemple, aussi. Un lieu détruit, sans parler des humains. Que je me contente pour ma part de saisir à la dérobée, car tout cela est aussi dans des formes, des chorégraphies en noir et blanc. Le théâtre permet d'imaginer du vivant qui dit votre texte, de sentir le verbe envahir l'espace, d'une manière vraie malgré l'artifice. Aucune volonté de charger le théâtre d'un destin politique. Quand on massacre sur un plateau, ça n'a jamais ou rarement des répercussions au dehors, ou ça n'en a plus, mais c'est bien d'y croire. Dans le théâtre est apparue à nouveau la figure de l'auteur qui traverse aujourd'hui nombre de mes textes. La figure de l'auteur traverse mes textes comme moi-même, à ma manière, sans croyance, j'espère, je traverse des communautés. Je vais vous lire la fin d'une des trois pièces qui composent la trilogie théâtrale « La vie de l'esprit », sous-titrée « Pièce d'auteur, le tout au pluriel ». Je ne vous donne pas les circonstances même de ce passage, en extrait. Voilà. Donc c'est l'auteur qui parle. Cette chose, en fait, c'est une chose qui m'est arrivée plus ou moins. J'étais dans le train de retour du pays de retour. Je m'étais acheté à la gare un carnet de papier à petits carreaux, j'étais parti sans, puis j'avais eu l'idée de puis j'avais eu soudain le désir de fixer ma pensée et davantage écrire les premières pages d'un nouveau roman. Même si je savais que ce serait en deçà de ce que je désirais atteindre, je n'avais pu me dérober au désir d'entreprendre cette narration dont je percevais les proches intrigues ouvrant les unes sur les autres dans une affolante perspective. Dès la première page du carnet, ce fut un déluge, une somme de paroles, de situations, aussi subtiles qu'il m'est possible. Je vis l'aventure prendre forme au gré des secousses du train. Absorbé par mon travail, oubliant presque de respirer tellement j'étais fasciné par cette naissance, cependant reprenant souffle, tu imagines, au beau milieu du déferlement maîtrisé de mes phrases, je finis par avoir besoin d'une nécessaire remontée à la surface, ce qui consiste dans un arrêt momentané de l'écriture, la contemplation de quelques individus autour de soi, une étrange sensation physique, l'extension parfois craquante de ces putains de jambes, et à nouveau une sorte de tension interne qui vous fait replier sur vous-même et reprendre l'ouvrage. Cela se fit à plusieurs reprises. Je me redressai ainsi et vis plus attentivement la laideur du jeune homme qui me faisait face, en train de lire un de nos grands classiques. De même, j'observais ma voisine à mon côté gauche, nous étions dans un emplacement à quatre fauteuils, elle était aussi en pleine lecture d'un ouvrage dont le titre m'était invisible, mais à l'allure du livre, je sentais que c'était de la bonne littérature. Enfin, en diagonale, en face d'elle, un autre voisin griffonnait avec vivacité sur un petit carnet. Je me replongeais dans ma rédaction, relevais la tête à bout de souffle, replongeais, etc. Le wagon était anormalement calme. Revenant à nouveau à la surface, un peu usé par mon admirable exercice d'écriture, je me reposais un instant, en ne lâchant pas pour autant la laisse de mes pensées. De l'autre côté du couloir, quatre autres personnes semblaient imiter ma concentration. Deux lectrices, un grand dadais griffonnant lui aussi, mais sur un plus grand carnet, et à ma droite immédiate, dans le sens comme moi de l'allée, de l'autre côté de l'étroit couloir, ma jeune voisine, résolument de nous tous la plus moderne, puisqu'elle tapotait sur le clavier de son ordinateur. À un mètre de distance, tous les caractères de l'écran lumineux sont visibles. Je déchiffrais. Une fiction. Ma voisine était plongée dans la rédaction d'une fiction. Peut-être mauvaise. Sûrement une mauvaise fiction. Doux délice, je crois que c'était le titre. L'écriture de la fiction continuait au rythme des soubresauts du train. La mienne aussi. Nous avancions de concert dans le sens de l'allée, chacun vaquant à sa fiction. Mon voisin griffonnait. Je tentais de lire ses griffonnements. De la poésie. Mon voisin écrivait de la poésie, normal vu sa tête. Les autres lisaient. Et là, une pensée me vint, une idée même. Ils font une pause. Ceux qui en cet instant lisent font une pause. Ils font non pas une pause, mais plus exactement, ils s'adonnent à l'autre versant du métier d'écrivain, la lecture. Oui, ce sont des écrivains. Je reviens d'une rencontre où l'on m'a questionné sur mes romans et me voici de retour dans un train où tout le monde est écrivain. Tout le monde. Ce wagon est anormalement calme car il est rempli d'écrivains. Tout le monde ici est écrivain. Tout le monde dans des romans, du théâtre, des essais, de la poésie. Toutes les personnes de ce wagon sont des écrivains. Je m'en aperçois, mais il n'est pas dit Noémie qu'ils s'en aperçoivent. Et tous ils vont à leur rendez-vous, leur maison, leurs lecteurs, leurs éditeurs. Question, qu'en est-il du wagon devant et du wagon derrière ? Le train est-il rempli à ras-bord d'écrivains ? Le savent-ils ? Et finalement, seconde question, où allez-vous tous réellement ? Je vous remercie.